Bonjour, je voudrais intervenir sur l'expulsion d'un de mes élèves. Il s'agit de Karim Si, qui est en cours d'expulsion. Demain, l'appel sera jugé à Bordeaux à 10h au tribunal administratif. Donc je demande à tout le comité de soutien, tous les élèves qui ne peuvent pas se déplacer, d'être au tribunal d'Agen pour 10h pour soutenir Karim, et ceux qui peuvent se déplacer d'être à Bordeaux. Il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, que Karim Si est un lycéen qui va être expulsé au Sénégal. Il y a 2 jours, il vivait une vie normale, il avait de très bons résultats scolaires et un comportement exemplaire. Lundi matin à 7h, un soi-disant banal contrôle d'identité a eu lieu devant chez lui. En moins de 24 heures, sa vie a basculé. Il a été placé en garde à vue. Le préfet du Lot-et-Garonne a faxé son arrêté d'expulsion dans l'après-midi et l'a placé en centre de rétention. Tous les lycéens et différentes associations ont vivement réagi face à cette décision d'expulsion. Ils se sont mobilisés. Il faut savoir qu'au Sénégal, Karim n'a personne pour l'accueillir, que sa sœur est française et avait mis en place une procédure d'adoption, et qu'il aurait suffi de laisser cette procédure en cours pour que tout soit régularisé. Nous sommes surpris et en colère face à cette rapidité d'action de l'administration, et nous nous demandons si, en plus de l'expulsion administrative, il n'y aurait pas une volonté délibérée de nuire.
Oui, ben c'est Jackie de Toulouse qui téléphone. Je voulais remercier nos camarades du Parti communiste qui porteront la responsabilité de l'échec de la candidature unitaire antilibérale. Voilà. Allez, au revoir.
Bon, ben, je voterai Marie-Georges au mois de mai et Clémentine en 2012. Je suis content qu'elle continue, Clémentine. C'est une bonne idée de continuer. Et j'espère que d'ici 5 ans, eh bien, les différentes tendances se seront unifiées. Celle de Marie-Georges et celle de Clémentine. Elle sera encore jeune, Clémentine, en 2012. Tandis que moi, j'espère que je serai encore là pour voter. Bon, allez, c'est bien, Clémentine, continue.
Alors, après la droite la plus conne du monde, nous avons le Parti communiste le plus con d'Europe. Merci les 80% qui ont voté pour la candidature unique de Marie-Georges Buffet pour la candidature antilibérale. Voilà, eh ben, bravo les gars, prolétaires de tous les pays, unissez-vous abrutis, unissez-vous. C'était Seb de Los Angeles, ciao.
Oui, bonjour, il est 4h12 exactement. Et puis, ben, j'étais très content d'écouter cette émission, de là-bas si j'y suis, comme d'habitude. Donc. Et puis, mais qui change un peu des niaiseries de Noël et tout, ça va vraiment fait plaisir. Voilà, bon, c'est tout, c'est modeste et génial, c'est vrai. Allez, bon courage, au revoir, c'est Gérard Duvar.
Sarkozan avec sa mitraque, le floc apercevant un saint pied plat, l'arrêtit. Il s'envolit vers son blod dans son chartier. Joyeux Noël.
J'ai 35 ans, voilà. J'ai découvert là-bas si je suis il y a un peu plus d'1 an maintenant, et de suite j'ai compris que ton émission n'était pas comme les autres. Loin de tous ces petits soldats du journalisme, un grand merci à François Ruffin en passant, et du formatage que les grands médias ont imposé sur toute la presse, tout support confondu. Vous osez sortir des sentiers battus, n'ayant pas peur de briser les clichés. Vous allez à la rencontre de tous ceux qui se battent, de ceux qui résistent encore. J'aime votre regard décalé. Depuis plus d'1 an, vous m'avez éclairé sur pas mal de sujets. Je suis riche de tout ce savoir. Et pour ça, je ne vous remercierai jamais assez. Je vous écoutais en direct l'an dernier, mais depuis l'imposition du nouvel horaire, malgré la pétition, dont je fais partie des signataires, c'est en différé que je le fais en téléchargeant vos émissions que j'écoute tous les matins en allant au travail. Je travaille d'ailleurs à la Défense dans une grande multinationale, donc dans la gueule du loup. Ça fait un bien fou de vous entendre, en tout cas, dans une époque où les espaces de liberté sont de plus en plus restreints. Daniel et toute ton équipe, vous êtes notre bouffée d'oxygène. Merci beaucoup et continuez. Pauline de Choisy-le-Roi.
Allô Daniel, salut. C'est la première fois que j'appelle. Je suis Daniel. Et j'aurais voulu participer entre le 23 décembre et le 1er janvier Enfin, aller aider ceux qui sont au canal Saint-Martin, là-bas, qui crèvent la dalle et qui ont froid. Moi, j'ai une petite maison ici, je suis avec mon chien toute seule. Et donc, je voudrais aller là-bas, mais j'ai aucun moyen de transport. Je sais pas du tout comment faire. Faut que je prenne un taxi, j'ai pas d'argent pour ça, pour aller jusqu'au train, jusqu'à Bapaume. Et donc, si quelqu'un était capable de venir me prendre en voiture, même pour aller jusqu'à la gare, ce serait génial. Entre le 3, entre donc le 24 décembre et le 1er janvier, pour rejoindre des camarades qui sont là-bas, qui butent. Enfin, t'as entendu parler de ce qui se passe Canal Saint-Martin. Voilà, là, j'ai fait des dizaines de numéros officiels. Il y en a pas un qui sait où est sans métier alcoolique. Il y en a pas un qui est capable de me répondre. On dirait qu'ils s'en foutent. Même Emmaüs, même les curés. On dirait qu'ils s'en foutent. Tu es écœuré. Voilà, j'espère que tu vas entendre mon message, que tu vas le passer et qu'une personne du Pas-de-Calais aura assez de cœur pour me téléphoner. Je vais laisser mon numéro de téléphone. Voilà. C'est le 06-27-46-11-16. 06-27-46-11-16. Au cas où une personne pourrait me contacter pour m'emmener là-bas, Canal Saint-Martin, ou même simplement à la gare de Bapaume, pour essayer de prendre le train. Si on me téléphone là, je suis chez moi toute la journée. Hein. Voilà. Salut Daniel. Au revoir.
Bon, bah vous avez déjà noté le numéro, j'en suis sûr. Je le répète quand même. 06 27 46 11 16. 06 27 46 11 16. Voilà, vous appelez notre amie auditrice qui a envie de faire un petit tour à Paris, voir ceux qui morflent. C'est la saison, hein. Quand Noël approche, c'est le temps de la compassion. Le mois de juin, c'est les maillots de bain. Chose de saison. Et nous aussi, on vous a fait un petit sujet de saison avec Pascal Pascariello. On est allé dans un quartier joli de Paris, qui est comme un petit village, qui ressemble un petit peu à... C'est pas la peine d'aller chez Euro Disney. Si vous allez rue Montorgueil, ça suffit. C'est un joli petit village. Et puis là, c'est qui est formidable, rue Montorgueil, c'est qu'il n'y a pas de pauvres. C'est quand même un endroit extraordinaire. Tout est joli, tout est gentil, tout est bien bichonné. Mais alors on s'est dit, c'est quand même curieux. Et on s'est demandé où sont-ils passés, qu'est-ce qu'on en a fait. Voilà, on s'est intéressé un petit peu à la gestion des pauvres. Et ça s'appelle les glaireux et les onctueux. Et auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Au 01 56 40 37 37.
Entendu sur France Inter ce matin dans le flash de 6h30. Deux tiers des centaines de millions d'euros des dons versés par les Français pour les sinistrés du tsunami sont restés dans les caisses des associations. C'est la Cour des comptes, pas soupçonnable d'arrière-pensée altermondialiste, qui révèle cela, épinglant en particulier la Croix-Rouge française, présidée par le très sarkozyste M. Mattei. Cette info, peu reprise au sort aux heures de grande écoute par les grands médias, qui ont pourtant été en première ligne lors de la collecte, fait écho au rapport de l'ONU, qui dénonçait le peu de sinistrés relogés, voire spoliés de leur terrain, au profit de chaînes hôtelières. Souvenons-nous que parmi les ONG, la plus honnête, Médecins sans frontières, a été conspuée par ces associations qui, 2 ans plus tard, ont gardé l'argent dans leur caisse. Alors joyeux Noël aux heureux et généreux donateurs.
Salut tout le monde, un petit message pour dire qu'il y a un rassemblement de soutien au peuple de Oaxaca en lutte à Grenoble à 16h, place Félix Poula. Soyons nombreux.
Bonjour, je viens d'entendre l'émission d'aujourd'hui et je voulais vous dire que je comprends pour les gens qui ont été licenciés, ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années. Mais ce qu'il faudrait surtout faire, c'est remonter les plafonds, vu que le menu de référence pour les impôts est de 7 347 euros par an. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 7 347 euros par an en payant un loyer? Et quand on touche 588 euros de retraite par mois, ou 800 euros avec la complémentaire, en payant un loyer, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut absolument rien faire. Et c'est pas l'augmentation des retraites qu'il faudrait, mais l'augmentation des plafonds, car les personnes seules ont absolument droit à rien. Si elles sont seules et qu'elles atteignent un certain plafond, elles ont droit à rien, même pas à l'allocation logement. Merci.
Moi, je pars du principe, hein, quand on commence à donner à manger aux pigeons, ils se ramassent toute la horde. Donc, je limite ça. Je limite.
Quand on donne à manger aux pigeons, on se ramasse toute la horde.
Vous commencez à donner à manger un pigeon. Au bout de 10 minutes, vous en avez 10, 20, 30. Au bout d'une semaine, vous avez tout un troupeau de pigeons qui est là dans le quartier, enfin vous comprenez quoi. Donc là-dessus, je préfère limiter aussi.
Il faut que le quartier soit propre quoi.
Puis si demain ils gagnent au loto, ils seront peut-être bien contents de venir habiter dans le quartier. Comme à Euro Disney, voilà.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Pascal Pascariello, les glaireux et les onctueux.
Flight number 2, arriving from Kyoto.
Donc je suis Monsieur Avey, je travaille pour la société Côté Montorgueil. Nous sommes tout simplement une agence de proximité spécialisée sur le quartier piéton Montorgueil, comme le nom l'indique. Une agence immobilière, on est spécialisé uniquement dans la vente de biens immobiliers sur le quartier piéton Montorgueil. À l'heure actuelle, il y a un engouement qui est assez important pour le quartier Montorgueil, comme la Reine d'Angleterre est venue. C'est un endroit très showbiz. Maintenant, il fait bon de se faire d'être vu dans la rue Montorgueil, dans le quartier Montorgueil. Alors, vous êtes tout simplement dans le centre de Paris, vous êtes entre le Sentier, entre Rivoli, les Arts et Métiers et la Bourse. Donc ça vous permet de vous situer, on est vraiment au cœur de Paris. C'est un quartier piéton, donc il n'y a pas de voiture. Vous voyez, tout le monde marche sur la route comme dans... comme à Euro Disney, voilà. Ici, je vous parlais tout à l'heure showbiz parce que vous avez pas mal de personnes comme Jennifer, comme Laurent Voulzy. C'est un endroit qui est maintenant très très médiatisé. À l'heure actuelle, le quartier Montorgueil est vraiment ce qu'on peut appeler un village. Tout le monde se connaît. Il y a une notion de proximité. Donc, ce que les gens cherchent actuellement, c'est ce côté. Regardez, vous allez voir qu'il y a vraiment une atmosphère Montorgueil.
Vous la sentez, l'atmosphère Montorgueil? Là, c'est bien, hein, c'est joli, les petits pavés, les petits commerçants, les petites boutiques, c'est joli, c'est pimpant, c'est pomponné, c'est magnifique, c'est Paris, quoi. C'est on vient de vous le dire, hein, c'est un endroit formidable. Mais là, c'est curieux pour ceux qui ont un tout petit peu de mémoire et un petit peu de bouteille aussi. Où sont passés les pauvres? Il y avait, je parle pas des très très pauvres, hein, parler des très très pauvres, mais du peuple, du populo, il y en a plus. Ils ont disparu de ces rues, de cette rue Montorgueil et d'autres rues de Paris et de Paris d'ailleurs. C'est curieux quand même. Et puis alors les clodos, les sans-abri, les SDF, il y en a plus. C'est quand même une disparition. C'est quand même ça vaut des questions, ça vaut une enquête qu'a faite Pascal Pascariello. En fait, aujourd'hui, on va parler des pauvres, bien sûr, parce que c'est vrai, le pauvre est un souci, c'est une nuisance parmi d'autres, il faut le surveiller, il faut le repousser quand il incommode la vue ou l'odorat, quand il compromet l'atmosphère d'une rue commerçante, quand il fait ses besoins à votre porte, mais il faut surmonter votre dégoût, parce que le pauvre est indispensable et il est saisonnier, on l'a dit. Sans le pauvre, comment sentir le passage des saisons? C'est comme le Beaujolais ou les collections d'hiver. Il y a la mort du pauvre sous son tas de cartons à cause de la froidure et de l'indifférence de la société sans cœur qui est très méchante. Cette scénette est un rituel saisonnier, comme les santons pour la crèche. Ou une bonne purge avant la dinde. Ça, c'est bien la purge avant la dinde. Et alors, chacun fait son indigné, le humide, le consensus vertueux. Et alors, on prend des mesures. Hein. Des mesures de quoi? Oh, ben, des mesures du cercueil. D'ailleurs, Je m'adresse à toi, ami pauvre, toi qui, une bonne âme discrète, vient d'offrir un petit transistor, rue Montorgueil, que tu écoutes collé à ton oreille. Et au nom de tous, je te dis merci pour le rôle indispensable que tu tiens depuis toujours. Sans toi, la vie n'aurait plus de sel et plus de sens. Supprimer la pauvreté, c'est comme supprimer la mort. Et quel goût aurait mon caviar si toi, le pauvre, tu pouvais en bouffer.
Et comme entrée, je te propose une rue qui grouille et un mendiant qui pose, de la pluie qui mouille et un chapeau par terre, à côté d'un restaurant où ça sent la mer. Et je t'emmène en balade, là où sous la lune on voit le jour, loin des feux rouges où la main demande, demande, mais quel est le menu du jour? Mais quel est, mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Et pourquoi on tend la main, main tendue pour le menu du jour, main venue de loin, main qui se souvient, main qui tremble pour un litre de vin. Mais la main reste en l'air et le pied lui reste dans sa chaussure. Ça n'est pas une question de température, ici on ne gaspille pas que de la nourriture. Et je t'emmène en balade, là où sous la lune on voit le jour, loin des feux rouges où la main demande, demande, mais quel est le menu du jour? Mais quel est, mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Qu'as-tu choisi pour le dessert? Une crème chantilly ou un morceau de pierre? Un bébé rose, une banane à la bière, deux boules de citron au marc, une oreille sur ton ventre, j'entends la mer. Depuis combien d'années, d'années-lumière? Des belles vitrines à la banque alimentaire, des banderoles à la super populaire. Mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour?
Comme vous voyez marqué devant nous sur le sol, c'est 1991. Cette date en fait signifie tout simplement la date de création du quartier piéton. À partir de ce moment-là, en fait, on a vu autre chose que le sentier, parce qu'ici, il faut voir que ce n'était que le sentier. C'était prostitution, drogue, textile. Donc depuis que c'est devenu piéton, c'est devenu un endroit un petit peu protégé. Hein. Donc à partir du moment où il y fait bon vivre, les gens qui ont de l'argent viennent y résider. Donc à partir de ce moment-là, l'argent s'injecte tout naturellement, par les charges, par le prix des appartements qui augmente. On est sur une base de 7000 euros du mètre carré, ce qui n'est pas rien non plus. Et je vous donne bien évidemment une moyenne.
À la location.
Vous fonctionnez sur une fourchette de 30 euros du mètre carré. 30 mètres carrés, voilà, ça vous fait 900 euros. Je voulais vous emmener dans un hôtel particulier du 17e siècle, qui est absolument magnifique. C'est un hôtel particulier, vous voulez faire un petit tour? Je vous y amène parce que c'est un hôtel particulier que j'affectionne particulièrement. Voilà. Voilà ce que cache le quartier Montorgueil derrière de petites portes. Et c'est pas le seul. Mais bon, vous voulez un exemple, c'est assez représentatif du quartier. Dans un hôtel particulier du début du XVIIe siècle en pierre de taille, bien évidemment, s'il est classé par les bâtiments de France, c'est qu'il y a de l'historique, vous avez la cage d'escalier qui est également classée. C'est déjà vendu, tout est vendu dans le quartier, vous n'avez rien qui est vacant. On a un appartement à vendre dans cet immeuble, mais on a déjà trouvé l'acquéreur. Donc c'est un appartement spécial, c'était 200 mètres carrés, on dépassait le million d'euros.
Et quand on arrive rue Montorgueil, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de personnes dans la rue.
C'est un quartier où il y a de l'argent, tout simplement. C'est dommage, mais bon. Et plus les riches sont riches, plus les pauvres sont pauvres. Hein. de, je vois pas beaucoup de comment dire, de pauvres, parce qu'on sait qu'ici vous allez trouver peut-être plus d'argent, plus de les HALS, c'est le rassemblement de 4 lignes de RER et de 4 ou 5 lignes de métro. On trouve une certaine faune, voilà. Donc si vous allez faire un tour du côté des HALS, on va parler de, là on peut parler de côté populaire.
Mais il n'y a pas de SDF qui stationne rue Montorgueil.
Si, on a même nos SDF que tout le monde connaît et qu'ils ont connus dans le quartier, qui sont des figures emblématiques.
Ah oui.
Ce sont des figures emblématiques. Vous aviez Jean-Marie, qui nous a quittés il y a peu, qui était une figure emblématique du quartier. Mais c'est cette notion de pauvre que je vais relever, parce que c'est pas forcément, c'est des farfelus, c'est des gens qu'on va peut-être prendre pour des pauvres, mais qui le sont pas. Donc c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut caractériser, c'est pas un trait, c'est pas quelque chose qui va caractériser ces personnes-là. Mais le côté de SDF, vraiment ça c'est un point, c'est pas, y a pas une équipe de vigile à l'entrée qui ne fait pas entrer les mendiants dans la rue. C'est un quartier où peut-être tout le monde a envie de passer, hein, les riches comme les pauvres, comme tout le monde. Donc, puis si demain ils gagnent au loto, ils seront peut-être bien contents de venir habiter dans le quartier.
Qu'est-ce que tu dis ?
Ça fait 63 ans que j'habite le quartier. Et puis j'ai vécu toutes les transformations, le départ du marché, la rue Montorgueil qui il y a 30 ans était la rue la commerçante la moins chère de Paris, c'est devenu quasiment la plus chère.
D'autant plus que vous avez bien connu les Halles,
ah ben, ça,
et le marché.
Complètement, mon père travaillait au poisson, il était vendeur sous les pavillons, j'étais vraiment plongé dedans quoi. Au fur et à mesure la pression immobilière a pris une ampleur qu'on connaît bien maintenant, hein. Donc tous les anciens habitants, bon, sont soit morts, soit sont partis parce que bon, ils pouvaient plus se loger sur place, quoi. Ce qui fait que le quartier qui était un quartier vraiment très très populaire, mais dans le sens noble du terme, hein, avec une mixité sociale qui était très nette, et où tout le monde se côtoyait et fraternisait sans problème, hein, au bistrot d'en bas. Bon, ben maintenant, ça s'est uniformisé, quoi. C'est des classes moyennes, plutôt 4 supérieures, d'ailleurs, plus que la moyenne, qui habitent là, en grande partie. On en est là maintenant, quoi. Mais enfin, il aura fallu 40 ans, quand même.
Eh ouais, comme dit Jean-Jacques, on en est à maintenant. Voilà, la rue Montorgueil, ancienne rue populaire, est devenue l'archétype, la caricature du quartier bobo. Et moi, dans mon enfance, il m'arrivait de me balader rue Montorgueil avec ma maman. Et ma maman, quand on voyait un clochard, on disait clochard, on disait pas SDF, elle dit « tu faut que tu fasses attention parce que c'est peut-être Jésus-Christ ». Je dis, comment ça? Bah oui, c'est peut-être Jésus-Christ, parce que des fois, Jésus, il s'habille en pauvre. Et c'est pour ça qu'il faut donner aux pauvres, parce que des fois, ça peut être Jésus-Christ. Voilà. Mais alors, mais si on donne pas à Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut arriver? Ma mère disait, tu peux avoir plein d'emmerdements si tu donnes pas, si jamais c'était Jésus-Christ. Et ma mère, elle s'y connaissait en emmerdement. Elle était tombée dedans étant petite, et puis ça ne l'a jamais lâchée à peu près de toute sa vie. Et elle disait une chose, je ne sais pas si c'est son histoire de Jésus-Christ qui lui avait permis de comprendre une chose très très importante. Elle disait, eux, ils veulent supprimer les pauvres, mais moi, ce que je veux, c'est supprimer la pauvreté. Ma mère avait lu Victor Hugo, et ça, c'est Victor Hugo. Mais je pense qu'elle n'avait pas besoin de Victor Hugo pour avoir trouvé ça. Aujourd'hui, on régresse. On régresse, c'est le grand bond en arrière qu'on est tous en train d'accomplir joyeusement. Donc, on est revenu au temps de la charité. On est revenu au temps de la bienfaisance. On est revenu au temps des bonnes œuvres. Et dans une rue très bobo. Le bobo, c'est un mot un petit peu d'aujourd'hui pour dire bourgeois. Voilà, bourgeois. C'est une rue bourgeoise. On en est au. On est revenu aux bonnes œuvres. Et Jean-Jacques a bien raison de regretter ça on peut regretter ce temps effectivement idéal et l'un des hauts lieux de la rue Montorgueil dans lequel j'allais quand j'étais gamin avec ma maman parfois quelquefois le dimanche acheter un puits d'amour, c'est le pâtissier Storer.
Merci. Merci beaucoup, madame. Au revoir, même si c'est une pâtisserie très tard. En fait, on fait plein de spécialités. Pour Noël, on fait des menus tradition, vraiment la dinde farcie au marron, crème.
Et alors, si je veux avoir mon petit menu, moi, pour Noël pour,
Le menu tradition, il est à 49 euros. Le menu divin, il est à 59 euros.
Ça veut tout dire, divin, c'est quoi
C'est mieux, c'est encore mieux que... Enfin, le premier, il est bien, mais le deuxième, il est plus garni. Vous avez la verrine, c'est une verrine avec un pot-au-feu de foie gras, de canard et légumes d'hiver. Hein, ça c'est extra.
Verrine, c'est quoi une verrine?
Une verrine, c'est un verre transparent en fait. C'est un verre transparent, on voit à l'intérieur les couches de garniture. Ça c'est vraiment. De toute façon, chez Storer, hein, on peut trouver que de l'art. Hein, parce qu'un vrai pâtissier, il a fait l'école des beaux-arts. Hein. C'est pas un pâtissier de chez Ginette. Hein. Les gens, ils viennent ici, ça, ils savent qu'ils vont payer tant, mais le luxe, c'est sûr que ça se paye dans une boutique. Hein. Pour 200 euros, je pense qu'ils ont un très bon, même pour 150 euros, un bon menu avec ce qu'il faut, avec des fruits secs à côté, avec des choses. Hein.
Est-ce que vous avez beaucoup de pertes ou pas?
Oui, bien sûr qu'on a de la perte, mais pas tout le temps, hein, c'est très rare. Et puis, si on a de la perte, on a l'église Saint-Eustache, tout l'hiver, on leur fournit, ils viennent chercher le soir, et on leur donne, voilà.
Donc, individuellement, c'est pas la peine que j'appelle mes amis pour leur dire venez.
On le fera jamais.
Pourquoi?
Parce que après, les gens viendront que pour ça, et c'est pas, on préfère donner à l'église, s'ils en veulent, ils ont qu'à aller à l'église Saint-Eustache.
Vous avez un petit sourire, parce que vous imaginez une queue de...
Oui, je suis en train d'imaginer ça, hein.
Ça ferait quoi pour
si
vous?
On a un clochard qui arrive, qui, c'est vrai qu'il meurt de faim, on va lui donner un sandwich, on est humain, donc non. On leur donne, ils veulent pas, ils veulent de l'argent, des choses comme ça, donc non, il y a de l'abus, je trouve. On fait pas tout ça, non. On le fera pas d'ailleurs, pas dans la boutique, on a une image de la maison, non.
Admettons Storer quand même, qui est vraiment réputé. Si ça passe, comme quoi il donne des trucs pour la soupe Saint-Eustache, vous rendez compte, il y a des clients qui peuvent mal le prendre, on ne sait jamais, moi je me dis c'est ça, hein. Eh bien oui.
Mais pourquoi il le prendrait mal au contraire?
Parce que c'est associer cette image de marque à une classe sociale dévalorisante, franchement, comment vous le voyez vous? Ils savent que c'est assuré par ailleurs. Bien organisé, tranquille.
Mais.
Question d'image, d'association, c'est mon premier hiver.
William, alors expliquez-moi. Là, vous avez mangé quoi?
La soupe, et puis après, les légumes avec le poisson, puis on attend pour le café après.
Et donc, tout se passe dehors? Je dis ça d'une voix un peu tremblante parce qu'il fait froid quand même.
Ah oui. Il y a des lieux où on peut manger à l'intérieur. Ben ici, je sais pas, ils n'ont pas la place pour... Parce que dans le cinquième, on appelle ça la soupe populaire. Et ils donnent des tickets. Ils appellent par numéro. C'est-à-dire de midi moins le quart jusqu'à 2 heures. Et là, t'as le droit de manger à l'intérieur assis. Bon, t'es au chaud, t'as une soupe, un plat. Et après, t'as l'église Notre-Dame de la Trinité là-bas. Là, c'est pareil, t'as une soupe, un plat et puis... Un café, puis des gâteaux et tout. Et t'as le droit de manger à l'intérieur.
Et pourtant, parce que là, au plus, ils ont une église
Ah bah ici, Saint-Eustache, c'est une vieille église. Hein.
Elle est grande, hein?
Ah oui, elle est grande. Il pourrait faire à l'intérieur, mais je sais pas, ils peuvent pas. À moins que...
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de temps en temps, William, le regard qu'on porte sur vous?
Bah moi, je critique pas les gens, mais il y a des gens, bon, des fois ils me disent, ah, mais chien, mais... Ben écoutez, hein, quand vous aurez vécu ce que j'ai vécu moi je suis né pendant la guerre. La dernière guerre, je suis né en 1940, tu vois. Vous voyez, c'était en plein mois de décembre 40 et mes parents travaillaient.
Ils faisaient quoi?
Mon père était infirmier brancardier et ma mère travaillait dans les hôpitaux de Paris en cuisine. On était plusieurs dans la famille, hein. J'ai eu plusieurs frères. Tous les frères ont été militaires et tout. Moi, je suis sorti de l'armée, j'avais 26, 27 ans, quand je suis sorti de l'armée. Tout de suite après l'armée, j'ai trouvé du travail au HAL. Il y a un gars qui me dit, tiens, il me dit, il y a les bouchers qui cherchent quelqu'un, du personnel. Moi, je dis, bah, attends, je vais y aller, moi. Ça m'intéresse, et puis bon, bah, j'ai travaillé pendant des années là au HAL. Quand je faisais les HAL, j'allais voir mes parents, d'accord, mais je couchais dans un hôtel.
Où? Il était où?
Ici, dans le quartier. Vers Montorgueil, il y avait un petit hôtel que le patron payait tous les mois aux ouvriers, au personnel. Et on commençait le soir à partir de 9h. Parce qu'il y avait la découpe, il y avait tout ça à faire. Faire les transportations pour les clients.
Et la rue Montorgueil, elle était comment à votre époque?
C'était animé. Hein. C'était animé toute la nuit. La rue Montorgueil s'est animée toute la nuit. Hein. Et après, quand j'ai quitté les Halles, j'ai fait la cuisine.
Vous avez fait la cuisine?
Oui, au Café de la Paix. Et là, j'étais pas apprenti, hein, j'étais cuisinier. Et après, quand les nouveaux patrons sont arrivés, ils ont licencié les anciens. Hein. Après, j'ai perdu tout mon logement et tout. Quoi.
C'était en quelle année?
Ben c'était en 78-80. J'ai couché sous les ponts de Paris alors. Faut se débrouiller.
C'est la débrouille.
La débrouille.
Ce soir par exemple, vous savez où vous habitez?
Ben je vais voir un coin dans Paris. Parce que j'ai des amis qui ont des chambres où je connais. Que je peux passer des fois une semaine ou 15 jours dans une chambre au chaud.
William, vous avez quel âge?
66 bientôt, à la fin de l'année là. Bon, je suis à la retraite maintenant, bon, je me débrouille pour acheter ce que je veux. Puis...
Et vous avez combien de retraites?
Ah ben, j'ai assez pour vivre assez, hein, pour l'instant.
Bon appétit. Elle est bien chaude.
Bon appétit, monsieur. Bonsoir, monsieur.
Et donc là, on est sur le parvis de l'église Saint-Eustache. Hein, c'est pas loin de la rue Montorgueil, de la rue...
Exact. Quartier des quartiers piétons.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, on a des invités.
Des invités, c'est qui?
Ben, ce sont ces personnes qui viennent faire la queue ici dehors pour manger. Ce qu'on va leur proposer. Et donc, pour les accueillir, on installe ces barrières de manière à ce qu'ils puissent faire la queue tranquillement, puisqu'ils seront sans doute assez nombreux. On va canaliser la file d'attente. Et puis, à 19h30 précise, on va ouvrir les portes, les grilles, puisqu'en fait, nous, on prépare le repas derrière les grilles.
À l'intérieur donc de l'église.
Et à 19h30, donc on ouvre les grilles et on sert le repas que nous avons préparé, donc de la soupe, un repas chaud, poisson et riz ce soir. Une équipe fait la tournée des boulangeries, pâtisseries pour récupérer les invendus, qu'on va distribuer aussi avec un café chaud.
Et c'est les boulangeries, pâtisseries de d'où?
Du coin, voilà, donc du quartier Montorgueil et puis de la rue Saint-Honoré, juste à côté d'ici.
Bonsoir, je m'appelle Max.
Bon, ouais, on monte là, c'est tout.
Non, on fait les poubelles aussi.
Le soir, quand il y a 6 heures,
sur ces poubelles, il y a des produits qui sont périmés le lendemain. Mais c'est toujours bon, on peut le manger le soir. Nous, on aime bien faire les poubelles. On trouve de l'or, des fois.
Pourquoi vous pensez qu'à Montorgueil, vous ne pouvez pas les faire chez les commerçants?
Les commerçants, ils donnent le plus mauvais. Vous ne comprenez pas. Ils ne veulent pas nous voir, ils ne nous aiment pas. Nous, on n'en a rien à foutre, on ne les aime pas non plus.
Hein. Donc, ils passent avant, on n'a pas besoin de tout récupérer, parce qu'il n'y a plus rien tout seul. On est obligé de venir ici, pour certaines personnes.
Vous vous appelez comment?
Emilio.
Emilio. Quel effet ça fait?
Ben, quel effet ça me fait? Ça me fait un effet de... C'est néfaste, quoi. Parce qu'ils en ont marre de nous voir errer dans les rues, et voilà. Ça peut abîmer des gens.
Et pourquoi vous n'allez pas dans la rue Montorgueil?
C'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots, là.
C'est un jeu de mots?
Oui.
Pourquoi vous dites c'est un jeu de mots?
Non, moi, je connais.
Qu'est-ce qu'elle a, la rue Montorgueil?
Pardon?
La rue Montorgueil.
Qu'est-ce qu'elle a, la rue Montorgueil?
Les bobos, non, non,
les bobos. C'est la rue la plus formidable du monde.
Vous avez une bonne ambition,
vraiment. Ben, c'est les bobos, hein.
Ouais, c'est les bobos.
Moi,
non, des bobos, des bobos.
Vous croyez qu'on a le droit de dormir dans la rue, là-bas, ou...
Mais moi, je ne pensais pas, ça caille, hein, la nuit, hein. Mais dans la rue Montorgueil, il y a plus de flics que de passants. Vous avez pas compris, les civils, ils sont tous là. C'est obligé qu'il y ait plus de flics que de personnes.
Pourquoi vous
avez... Parce que les gens, ils ont trop de pognon, ils ont peur.
Ils ont pas envie de voir...
C'est qu'ils ont pas envie de...
De connaître les pauvres. Ah, c'est tout.
Ah, je sais pas comment on
Il y a un rejet des personnes SDF, en fin de compte.
Ils ont pas envie de voir la réalité en face, quoi.
Ouais.
Bah, les gens me regardent différemment parce que je suis à côté, peut-être par rapport à eux, à côté de la plaque. Mais en fait,
la plaque, c'est lui.
Ils connaissent. Ils connaissent pas ma vie, quoi. Donc ils peuvent me juger et puis dire, tu vois, il dort par terre, machin, ceci, cela. C'est une merde, c'est une merde. Mais alors qu'ils connaissent pas ma vie.
Vous êtes bénévole.
Voilà, donc moi je fais partie des bénévoles. On est une trentaine par soir. Il y a une équipe pour chaque soir de la semaine.
Et expliquez-moi, vos invités dînent dehors.
Voilà, nos invités, malgré le froid, vont manger ici sur le parvis. Puis ils sont comme nous dehors.
Et pourquoi le mot invité plutôt que sans domicile ou sans abri?
Ben parce que c'est exactement le terme qui les caractérise pour nous, c'est-à-dire que ce sont des gens que nous attendons, qui sont nos invités. Certains sont SDF, mais pas tous. À la limite, nous n'avons pas à connaître l'histoire de chacun. C'est-à-dire quiconque vient ici peut trouver à manger, quelle que soit son histoire et sa situation. Et il me semble que on peut être utile ici. Les contacts sont parfois rudes parce que effectivement, on est dans le monde des gens de la rue, que parfois c'est très... Certains de nos invités ne nous donnent pas toute la reconnaissance qu'on attend. Donc ils sont vis-à-vis de nous, parfois assez méchants.
Et par contre, entre bénévoles, j'ai vu que c'était une grande famille.
Et c'est ça qui est sympathique aussi. Alors certains d'entre nous se connaissent, j'allais dire, en dehors de la soupe Saint-Eustache, en dehors de l'association. Pour d'autres, c'est le seul contact qu'on a le soir, pendant 3h30, on travaille ensemble.
Moi d'habitude, mes invités, je les reçois à table, à la même table que moi.
Eh bien nous, nous les recevons chez eux, j'allais dire, c'est-à-dire dehors. Moi, personnellement, j'attache de l'importance à vivre pendant quelques heures la même situation que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire vivre dans le froid, c'est-à-dire ce qu'ils vivent en permanence. Et je trouve que on a à cœur de vivre dans les mêmes conditions une toute petite partie de la journée.
Mais peut-être qu'eux, ils aimeraient inverser, vivre dans vos conditions une toute petite partie de la journée.
Oui, mais c'est pas le but de l'association.
y a des jeunes ici qui sont des bénévoles, qui ont une bonne conscience. Il fait une heure de, deux heures de bénévolat par semaine pour les pauvres et tout. Les grands-parents qui sont plus amenés à aller à l'église tous les dimanches que leurs parents ou leurs petits-enfants. Ah, la photo, Saint-Eustache, le petit-fils qui est là avec le sel, le poivre, qui sert la soupe. Ça fait un peu icône, vous voyez, c'est une icône. Peut-être que les gens se posent des questions aussi, parce que ça peut leur arriver un jour, hein, ça peut arriver. Il faut mieux un sondage où 77% des gens se posent des questions si un jour ils se retrouvent dans la rue. Hein, j'ai vu ça où dans l'IB, je crois. Non ?
J'ai
vu dans le quartier. Je sais pas où.
Pas rue Montorgueil ?
Bah, juste à côté. Non, j'ai vu pas rue Montorgueil, j'ai vu juste à côté. Mais ils se voient de la face, hein. C'est pas,
ils se voient de la face.
Non, j'estime que le potentiel des gens qui habitent le quartier, le Montorgueil, bonne situation et tout, ce qu'on appelle les bobos. Voilà. En l'occurrence, la jeunesse caviar de la génération Mitterrand. Quoi. Ils ont un voile carrément par rapport à la misère. Quoi. Et je m'en suis aperçu depuis des années. Quand tous les mois de novembre, dans les grandes Monoprix, Super U, Franprix, ils donnent rien. Que dalle. C'est complètement différent. Quoi.
Elle est gentille, cette petite Pascale, hein. Elle est mignonne, elle a des jolies dents, et les gars, ils ont bien vu qu'elle avait des jolies dents, mais elle comprend rien du tout. Elle comprend pas du tout que l'important, le non-dit. Alors, bien sûr, et c'est pas facile avec, quand on est avec un micro, d'enregistrer du non-dit. Mais le non-dit, il est le suivant. Ne pas remettre en cause l'ordre existant. Voilà. Il y a un ordre social, qui est que il y a les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Il y a d'un côté les onctueux, et puis d'un autre côté les heureux. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut les tenir à distance, ces clairons. Il faudrait pas qu'ils finissent par se révolter. On a eu des révoltes de gueux. Et oui, l'histoire est pleine de révoltes de gueux. Il faudrait surtout pas. Ce sont des populations dangereuses. Donc, il faut les mettre à distance en leur faisant la charité. C'est formidable, la charité. Vous avez tout. Et en plus, vous avez une image de quelqu'un de bon, avec de la bonne conscience, qui peut bouffer sa dinde au marron, avec, c'est encore plus agréable, non? Voilà. C'est un ordre très ancien. Il faut surtout le préserver et préserver l'image. La rue Montorgueil, c'est une image. Les commerçants de la rue Montorgueil vendent des images et on vient là acheter des images et il ne faut pas glavioter sur une aussi belle image.
On doit partir à quelle heure par la collecte?
C'est-à-dire que, en principe, on a rendez-vous dans une boulangerie tout en haut de la rue Montorgueil à 19h.
Alors vous, c'est Jacqueline?
Moi, c'est Jacqueline. Ouais.
Et vous?
Moi, c'est Marie.
Marie et Jacqueline. Alors Jacqueline, expliquez-moi ce qu'on va faire exactement là.
Ben, tous les pains qui ne sont pas vendus, on les récupère.
Aux boulangeries de Montorgueil.
Voilà, de Montorgueil. On fait tout ça, il y en a qui vont à Saint-Honoré, nous on va à Montorgueil. On fait combien de boulangeries? Tu fais combien de boulangeries à peu près?
Il y en a 13 en tout et 8 pour le quartier Montorgueil.
Je viens avec vous, oui.
Donc Dominique, vous venez avec.
Voilà. On sert la soupe, on va aux boulangeries, ou on fait la vaisselle, ou voilà.
C'est bien.
Ouais, c'est bien.
Jacqueline, ça fait combien de temps, vous?
Nous, on attaque notre 6e année.
C'est vrai?
Avec Marie, c'est ensemble.
Nous sommes arrivés ensemble, toutes les deux.
Qu'est-ce qui vous plaît bien, justement?
De retrouver, de partager un petit peu le temps avec les autres. On a des conversations très intéressantes avec eux, hein. Il y a des gens très cultivés. C'est incroyable, et qui basculent très, très vite.
Et ça me fait du bien, moi, de le faire, d'aider les gens. On pense pas seulement qu'à soi, avec ses petits problèmes chez soi.
Et puis moi, ce qui m'a vraiment touchée ici, c'est le respect qu'on nous a appris à avoir avec les gens de la rue. Ça, c'est formidable. On dit monsieur, madame, c'est formidable.
Ben, je ne sais pas si on appelle ça la charité, mais quand même, avec dans le monde qu'on vit actuellement, je pense que c'est presque un peu égoïste ce qu'on fait, vous savez. C'est parce qu'on reçoit beaucoup, vraiment. Ouais, ouais. Je sais que le vendredi, c'est sacré. Je refuse toutes les invitations et j'aime venir là.
Et si je viens pas, je me sens un petit peu culpabilisée.
Bonjour, bien et toi?
Allons, soyez pas sottes, ce n'est tout de même pas de notre faute. Si le malheur des autres fait le bonheur de ceux auxquels il rapporte. Et puis ma chère, vivre riche et bien heureux, c'est peut-être déjà bien, c'est certain. Mais sans un parterre de bougre et de malheureux, oh, ça n'aurait goût à rien. Oh, sans vous les tristes bougres, sans vous les humbles gens, sans vous les malheureux, les malchanceux, les mal lotis, vraiment que serions-nous, nous les bien portants, les gagnants du loto, nous les élus, nous les vernis. Sans vous, on ne pourrait pas faire preuve de pitié, pas faire œuvre de charité, et pas faire passer nos repas. Quand on vous donne un sou, vous ne savez pas comme c'est doux. Tout chaud à l'intérieur, tout sucre, on sent tout de suite meilleur. Regardez-moi bien, filer une pièce, ça se vaut rien. Oui, messieurs, moi j'ai les moyens. Faut que je m'informe, vu tout ce que je donne au clodo. C'est peut-être déductible des impôts.
Vous croyez pas qu'on peut donner quelque chose à ce monsieur? Non? Ben, il est dans la rue. Vous voulez quoi, un gâteau ou du pain?
Merci, c'est bon. Je suis un orphelin et, j'ai le cœur.
On va porter hein, les affaires. Hein. D'accord, je vous laisse porter. Alexandre à côté, il y a la soupe. Pourquoi vous y allez pas?
Gosse. J'étais violé quand j'étais gosse. Et l'homme me fait peur. Rien que le contact de l'homme, ça me fait peur.
La rue Montorgueil, je vois pas beaucoup de personnes qui sont dans la rue qui se...
C'est à cause de la police. Il y a les commerçants, pas tous, heureusement, mais il y a des commerçants qui appellent la police et qui nous virent.
Vous êtes fait virer de la rue Montorgueil?
Oui. Déjà, à l'hôtel du Louvre où je dormais, ils m'ont fait virer parce que c'est un hôtel de riches. Parce que ça leur fait une sale image. Mais on est tous virés par la police, nous les gens de la rue. Ils ne regardent pas les nationalités, ils ne regardent rien. Si tu veux, pour la société humaine qui travaille, quand tu es dehors, tu n'es plus rien, tu es différent. Ils te trouvent différent. Pour eux, tu n'es plus rien. Tu n'es qu'une merde, tu n'es plus un humain. Ils te regardent avec curiosité, ils sortent leur côté raciste sur nous. Ils nous insultent de fainéant d'aller bosser, mais ils ne savent même pas pourquoi on est dehors. Le premier pas que l'être humain dans ce monde a à faire vers la paix dans ce monde pour les gosses et les jeunes, justement, c'est le tutoiement. L'État a mis le vouvoiement parce que ça, ils savent que ça divise les gens du peuple. Eh oui.
Toi, pourquoi t'es dehors, Alexandre?
Parce que j'ai perdu ma femme de 25 ans, il y a 12 ans en arrière, au début de ma galère, le jour de la lune de miel. Après la Légion étrangère et l'assistance publique. Bah, si tu veux, après la Légion, j'ai épousé une femme et j'ai fait sa fille en banque. On a été à Las Vegas parce que moi je voulais y aller, parce que je voulais lui offrir le casino du Las Vegas, parce que pour elle, pour moi c'était important qu'elle aille là-bas. Et pour ma fille, parce que c'était plus près pour aller à Disneyland, tu vois. On est arrivé, ma femme est sortie de l'aéroport en courant, elle a arrêté un taxi, et puis il y a un camion de routier qui lui a passé dessus, quoi. J'ai surmonté tout ça. Il n'y a qu'une chose que j'arrive pas, que j'essaie là, parce que je sais que j'ai une volonté d'en faire. Il n'y a qu'une chose que je suis en train d'essayer, c'est la dernière petite chose qui me reste pour pouvoir surmonter encore. Pour oublier tout, je vais prouver qu'on peut oublier. Vivre avec, mais on peut aussi oublier. Ça, je sais qu'on peut le faire. Tout ce qui est négatif, on peut l'oublier. Et bien là, je suis en train d'essayer de me rapprocher de l'homme, malgré qu'il me fait peur, tu vois, de prendre contact. Petit à petit.
Gérer les pauvres, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Et on s'organise de mieux en mieux pour tenir les pauvres et les miséreux, les misérables à distance. Mais certains sont peut-être pas aussi abrutis que ça.
dans tous les journaux, ils parlent la raison d'être des gens qui sont carrément bas de l'échelle, dans la rue. Ils font des campagnes comme ce qu'ils ont fait sur le canal Saint-Martin, là, de s'entendre avec des gens qui ont un logement, qui vont essayer de dormir une nuit pour savoir comment les gens dans la rue peuvent supporter ça, alors que bon, c'est même les artistes qui vont les dormir, c'est complètement nul, quoi. Tout le monde s'en sert, hein. Tout parti politique confondu, hein, pour les élections. Hein. Et s'il faut en arriver à ça pour s'en servir que comme un, pas un joker, mais comme un pion sur un échiquier pour avoir des points aux élections, c'est dégueulasse. Quoi. Emmanueli, je peux pas encadrer.
Samu social.
Samu social. Et ben je peux vous dire que 80% des gens, quand ils voient le Samu social, ils se plantent derrière un mur pour pas aller à Montrouge ou à... Parce que c'est complètement lamentable, c'est à tout niveau, je veux dire, niveau psychologie, encadrement, hygiène...
Les autres associations qui servent à manger, etc.
Là, vous basez sur l'alimentaire, là, hein, parce que pour les gens de la précarité, c'est le logement. Hein. Sinon à Paris, on peut manger, on peut aller dans les vestiaires pour avoir des vêtements, des chaussures, les douches sont gratuites, ce qui n'est pas donné dans beaucoup de pays. La base, le basique, c'est le logement. Hein, c'est, la priorité, c'est le logement. Hein. À la rue, quand vous dormez dans la salle de couchage, sur un carton ou dans une tente, vous ne pouvez pas aller au boulot le lendemain matin. Hein. Un jour, deux jours, trois jours, et après vous cassez les reins.
Vous voulez qu'on aille où? Vous voulez pas qu'on rentre à l'intérieur? Ou pas? Non, ça vous... Non?
Vous voulez un café?
Merci. Et alors? Bah, il fait meilleur quand même, non?
Ouais. J'ai une famille où il y avait... une bonne, une fille au père et un chauffeur. Vous voyez un peu le niveau un peu social, quoi, non? Depuis mon adolescence, je ne conçois pas de vivre célibataire, je ne conçois pas. Peut-être que j'ai trop souffert d'avoir fait des années d'aller jésuite en pension. C'est même pas le problème, je ne conçois pas être vivre seul, quoi.
C'était quoi cette éducation?
Jésuite.
Jésuite?
Jésuite, oui. Dans plusieurs pays. Après, par obligation familiale, j'ai fait 2 ans de médecine. Moi, je fais bac C. Je fais 2 ans de médecine à Rennes. Mais j'étais plus avec les filles dans mon lit ou dans les bars qu'à la fac. Bah oui. Pas évident, hein? Je passe un coup de fil le matin, j'ai pas besoin d'aller voir ma psy, je rencontre ma psy le matin, j'ai pas besoin d'aller la voir.
Vous avez fait une belle économie, j'espère qu'elle est gratuite, votre psy.
Ah oui, quand même, c'est une psy sociale, elle est aveugle. Pendant 2 heures, quand je lui parle, je regarde ton chien, Arthur. C'est un labrador, il me regarde, il me connaît. Je regarde le chien quand je lui parle. Elle me tient la main de temps en temps parce que bon, il faut la toucher quand même. Hein. Mais c'est une très bonne psy.
Merci. Un euro de solidarité?
Non. Jérôme, on retrouvera Jérôme un de ces jours. Merci à tous, merci à lui, merci à William, à Thierry, à Sam, Emilio, Jean-Jacques, Gouet, Max et aux commerçants de la rue Montorgueil, de la rue Montmartre et aux bénévoles de la soupe Saint-Eustache, à lire le bouquin de Patrick Leclerc. Le sang nouveau est arrivé, l'horreur SDF aux éditions Gallimard. Et on viendra aussi sur ce livre et sur ces sujets très bientôt. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur le site là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Arnaud Caillet, Loïc Frapsos, c'est Yann Chouquet et Koyen Bien qui ont réalisé cette émission, assisté de Pascal Pascariello qui fait tout, elle est reporter, elle a
assistante, elle fait absolument tout. Et Christophe Imbert, lui, se contente d'attendre les messages que voudrait bien adresser au répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.